Merci à tous les deux. Alors, comme d'habitude, hein, pour vous laisser un peu le temps de cogiter vos questions, à moins qu'il y en ait déjà... Bon, donc je vais adresser moi une question-remarque à Nicolas d'abord. Bon, évidemment, Nicolas, j'ai été sensible hein, à ce mathématicien Cédric Villani, qui m'a renvoyé à deux autres inventeurs de la vérité, Newton et Freud, hein, où derrière leur passion de savoir, leur passion de la vérité, et puis aussi celle de théoriser, ce qui a consumé leur vie, Newton est quand même allé plus loin. Hein, on l'avait vu que Kepler et Galilée, et Freud est allé plus loin que Charcot, à sa suite Lacan aussi. Chacun a fait un pas décisif, hein, il me semble, en expliquant le connu, comme vous l'avez repris au tout début, à partir de l'inconnu, et en inventant une écriture, chacun, hein, pour tenter de démontrer que ce soit les lois de l'univers physique pour Newton, celles de la psyché pour Freud, ou celles du non-rapport sexuel pour Lacan. Enfin bref, trois passionnés. Je pourrais dire, entre guillemets, possédé du texte hein, et de sa matérialité. Enfin, pour revenir à ce cher Villani, au théorème vivant, dont la formule lui vient magiquement au réveil. Alors, la force, je ne suis pas allée regarder un peu plus près, mais j'ai pensé au rêve de l'injection faite à Irma. Alors, vous ne doutez pas de son côté, cette formule inconscient langage chiffrage, et vous êtes plus prudent. Vous ne doutez pas, hein, on est d'accord, hein, de son côté inconscient langage et chiffrage à cette formule, mais vous êtes plus prudent sur son côté inconscient réel et jouissance. Hein. Vous faites l'hypothèse du signe représentant quelque chose pour quelqu'un. C'est la page 4. Et vous précisez hein, que le signe, c'est le signifiant quand il est chargé de jouissance. J'ai bien aimé cette formule. Ce signe qui, du coup, représente le sujet. Et alors, voilà, je me disais, peut-être maintenant, vous pourriez nous en dire un peu plus, alors, une fois que vous... de cette formule qui... de cette formule qui son statut, finalement, qui continue, moi aussi, de m'interroger. Je vous oriente, cher Nicolas, sur la page 4 de Patricia. Et où...
Bonne idée.
Et où page 4, elle est là. Non, ça, c'est pas Patricia. Si. Ah oui, mais Patricia a changé sa pagination. Alors,
pas folle.
Voilà, où elle met en titre « La langue cohabite avec l'être parlant ». Il n'y a pas chez le sujet d'un côté l'être parlant, puis de l'autre la langue. Voilà. Et une autre petite remarque donc pour Patricia, si je retrouve mes notes. Alors Patricia, donc tu reprends en détail hein, ces questions de signifiant, de signe, de sujet, avec l'inconscient langage et réel, ces questions difficiles. Et tu demandes hein, comment l'individu, cet être parlant, peut devenir sujet d'un signifiant, comment ce signifiant lui-même passe au signe qui représente le sujet. Hein. Après, tu nous déplies vraiment bon, l'inconscient réel, l'inconscient la langue. À partir de quoi le signifiant, je reprends la formule, hein, puisque finalement, la formule de Nicolas, ce chargeant de jouissance, donc ce signifiant passe au signe. Ça, c'est la page 2. Et à la page 5, tu reprends le signifiant passé au signe. Et là, j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que finalement, c'est la première fois, il me semble. Alors, il me semble qu'on en parle cette année sur ce séminaire. Tu dis, ce signifiant passe au signe. Passer au signe n'est qu'une figure du semblant. Il n'est pas le signe de quelque chose, mais d'un effet qui est le sujet. Le signe n'est qu'un leurre, qui a comme corrélat la castration du sujet et démontre la division du sujet. Voilà. Et je me disais que ce passage, alors évidemment un peu grand écart quand même, hein, entre le signifiant chargé de jouissance, figure du semblant, et de l'autre le signe, ce leurre, hein, qui renvoie à la castration, à la division du sujet. Voilà, je trouvais que là, tu as amené quelque chose qui était quand même un peu nouveau.
C'est Lacan.
Oui. Je ne sais pas si vous voulez prendre la suite, si vous voulez prendre la suite ou si... Cher Nicolas.
Bah oui, cher Nicolas. Bon, on s'est cassé la tête avec Patricia sur cette histoire de... Parce que c'est le fond du... Enfin, il me semble que c'était le point central du paragraphe qu'on avait qui nous orientait, fait que Patricia avait plus particulièrement commenté, mais autour duquel j'ai essayé d'écrire un petit peu aussi. Et pour moi, c'était extrêmement énigmatique. Le signifiant peut être appelé à faire signe. Moi, je me le suis expliqué du côté... Hein ? Le signifiant fait signe. À faire signe, oui. Voilà. Et bon, enfin, voilà, c'était très énigmatique, on se l'a expliqué comme ça. Moi, j'avais l'idée que c'était quand il se chargeait de jouissance. Dans ma clinique, ça m'a renvoyé vraiment à la clinique du trauma. Mon Villani est venu à côté, je ne peux pas en dire grand-chose de plus. C'était des questions qu'on avait, on s'est beaucoup cassé la tête là-dessus.
Alors moi, tel que je l'ai compris, mais je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris non plus, quand il dit appeler... En fait, ça m'a éclairé ton... Là, ce que tu as écrit sur la... dans ta dernière page sur la cohabitation avec la langue, en donnant l'exemple de ces patients qui reviennent, qui disent ces mots, un petit peu comme l'exemple que tu donnais, Patricia, souvent, de la blague... de la femme, la femme qui va accoucher, à qui Freud, hein, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, oui, cohabiter, c'est bon, ce sont des mots du sujet qui sont là, mais qui sont pas pris dans le langage et qui tout d'un coup surgissent à un moment déterminé. Et donc, bon, pour en revenir à ce signifiant, peut-être appelé à faire signe. C'est moi ce que je l'entends comme c'est le signifiant qui a un effet sur le sujet. C'est celui-là qui devient signe. Mais bon, ma question est-ce qu'il y en a... Bon, je pense qu'il y en a plusieurs. Je veux dire, c'est pas un signifiant. Mais bon, c'est... Parce que je dis ça à cause de ce qu'il dit dans l'hypothèse. Qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant... Ah oui, ce que j'appelle le sujet d'un signifiant. On s'était posé aussi la question du un signifiant. Est-ce que c'est quand le sujet est affecté par un signifiant qui, à ce moment-là, il devient sujet de l'inconscient, mais est-ce, ou bien est-ce un signifiant en particulier, je ne sais pas. Là.
Oui, alors donc effectivement c'est une partie qui est c'est un passage qui est particulièrement difficile. Moi je fais une proposition de la façon dont on peut essayer de distinguer ce qui est à distinguer. Dans la mesure où il donne deux définitions du signifiant, il donne la première définition du signifiant qu'on connaît depuis longtemps, hein, c'est-à-dire un signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant. Puis donne cette nouvelle définition du signifiant qui est signe d'un sujet. Donc, on a deux définitions. La façon que j'ai de prendre la chose, c'est de rapporter le signifiant dans sa définition classique, qui représente un sujet pour un autre, le rapporter à l'inconscient, enfin, l'inconscient chaîne. Et l'autre signifiant, la définition nouvelle du signifiant, il me semble qu'elle se rapporte spécifiquement à la langue. Oui. À la langue avec ses effets sur ce qu'il nomme l'individu, qui est le corps, en réalité. C'est pas... Oui, enfin, l'individu, enfin, au sens aristotélicien, il dit l'individu, c'est le corps. Donc, et le corps, le signifiant qui affecte le corps est celui qui vient faire signe, et puis je reprendrai ce que tu disais, moi, enfin, ça me paraît assez juste, signe de la jouissance, enfin, signe d'une jouissance pour le sujet. Donc voilà, pour, comme moi, je me faisais ma petite comprenette pour... pour essayer de débrouiller cette chose, enfin ce passage-là, entre ce qu'il introduit de la langue et qui ne remet pas en question les définitions antérieures, mais qui en permet une nouvelle par rapport à signe de la jouissance, enfin cette coalescence, enfin cette cohabitation, je ne sais plus comment, entre jouissance et signifiant, qui devient signe de la jouissance pour le sujet. Tu disais évidemment, enfin, ça ne me semblait pas si évident que ça, la différence entre les deux, Patricia.
Ah, moi, ça, oui, la définition que tu as donnée, je suis tout à fait bon, d'accord avec celle-là sur l'inconscient en langage en tant que celui de la chaîne signifiant, de la chaîne du sujet, et l'inconscient la langue, l'inconscient réel en tant que déterminé par des éléments de la langue.
Quand il s'agit d'un signifiant qui devient signe d'un sujet, ça c'est ça qui...
Ah oui, le signifiant devenu signe d'un sujet, bon, moi il me semblait que c'était tel que je l'ai compris, un S1 prélevé sur le S2 de la langue, mais je ne sais pas. Voilà.
Oui, merci à tous les deux pour vos exposés clairs et vivants. Et une question la même à tous les deux. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous n'avez pas parlé de l'amour ?
J'aurais bien voulu.
Oui. La jouissance de l'autre, du corps de l'autre qu'il symbolise n'est pas le signe de l'amour. Alors pourquoi il introduit sous forme négative l'amour là ? Bon, on peut, je crois que vous l'avez expliqué tous les deux, l'entendre comme l'unarité de l'effet du signifiant de la langue sur le corps, l'effet de jouissance. Ça, c'est de l'un. Mais le fait que ce signifiant affecte un autre, qui parle en effet sujet, là, il se passe quelque chose entre l'un et l'autre.
Absolument.
Est-ce que ça n'est pas l'amour ? Et pour revenir, vous permettez, Patricia, par rapport à votre exposé la fin, vous évoquiez effectivement ces gens qui... profère quelques mots résiduels, d'abord au début de votre exposé. Votre mathématicien, dont j'ai déjà oublié le nom, oui, lui, probablement, est-ce qu'on peut dire qu'il aime les mathématiques ou qu'il est habité par les mathématiques, que c'est une relation d'amour, très probable, en tout cas passionnelle. Et tout à la fin, ce que vous évoquiez de ces quelques mots qui restent, c'est quand même des mots très chargés. Ce n'est pas n'importe quel mot.
Ça a été ma question pendant tout le temps où j'ai fait ce travail, mais seulement j'ai beaucoup élagué, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, la question, oui, ce qui m'interrogeait, c'est pourquoi lors de cette dernière leçon du séminaire, il reprend la même phrase qu'au tout début du séminaire, tout en se centrant sur la question de son hypothèse, du sujet d'insignifiant et du signifiant devenu signe. Et donc, je me demandais si, d'ailleurs, je l'avais écrit puis je l'ai enlevé, si la question du... c'était par rapport à... Le support formel, oui, quand il parle justement de cette question-là, du signifiant qui atteint un autre que ce qu'il est tout crûment lui comme signifiant. Et je me demandais si on pouvait l'entendre à la fois et le signifiant qui atteint le sujet dans son corps et le sujet et un sujet qui atteint par le signe qu'il représente, par son signe de jouissance, un autre sujet dans l'amour. Et puis, je me suis souvenue de l'intervention de Nadine Naitali. Et il était question d'un changement de discours. Il y avait quelque chose, hein, tu avais développé ça. Et, oui, donc je ne savais plus très bien si on pouvait le référer et à l'amour et au signe signifiant signe. Voilà.
Juste un mot sur l'amour de Villani pour les maths. Oui, ça fait pas de doute. C'est un amour, je suis assez d'accord, assez passionnel, qui oriente toute sa vie. Mais il aime plein d'autres choses. C'est assez marrant. Il adore la cuisine. Il aime le Japon. Il adore le groupe Les Têtes Raides, qui fait qu'il est assez bizarre. Il peut partir en Belgique voir ce groupe. Il a les moyens de se payer le Thalys en première classe, mais il rentre en stop. Il est habillé comme au 19e siècle. Il sort tout le temps avec une broche énorme, avec une araignée. Qu'a une araignée. Il a une dégaine assez spéciale.
Ça s'appelle un maniérisme.
Oui. Sur la fin de vie, en fait, sur les derniers signifiants, ce qui est assez étonnant, c'est que pour des patients que je connais, parfois quand surgissent ces signifiants autour de la mère, c'est souvent ça. Ils surgissent même quand elle est haïe, même quand elle n'est plus là ou morte depuis longtemps. Quoi. Donc c'est à la fois que je disais que c'est à la fois un cri du côté de la douleur, peut-être d'un appel, mais peut-être juste aussi, je crois, la matérialité du mama ou d'autres mots, ou d'autres, mais qui peuvent faire berceuse. Enfin, moi, c'est l'idée que j'ai eue qu'il y avait au moins trois dimensions dans ce, pour lesquelles je ne tranche pas, en fait, quand ça surgit comme ça. Et c'est pour ça que je parle des surprises, parce que chaque fois, ça m'épate, quelle que soit la configuration... Oui.
Oui, je voulais juste faire une remarque. Le signe, moi, je l'entends comme le signal, c'est-à-dire le signal qui a du vivant. Ça nous renvoie exactement à le maman ou les premiers mamans d'un bébé viennent signaler aussi qu'il existe comme corps vivant séparé de l'autre. Hein. Et alors que vous citiez Villani aujourd'hui est rigolo parce que je viens d'écouter une analysante qui est mathématicienne. Enfin, se plaignant de mots physiques pour lesquels elle essaye de comprendre. Or, il se trouve qu'elle est une mathématicienne très pointue. Et donc, elle m'expliquait tout à l'heure que le tournant des mathématiques récentes, c'était de poser qu'il n'y a pas de problème qui n'est pas de solution. Il n'y a que des problèmes mal posés. Et elle expliquait l'espèce de joie dans laquelle ça la met et la désillusion quand elle a compris que ce n'était réservé qu'au domaine des mathématiques, puisque dans la vie, on est confronté sans cesse aux impossibles. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Mais je crois que vraiment, c'est le signal du vivant. Ce que
Oui. Bon. Moi, je n'ai pas compris vraiment le même passage là, de signifiant à signe. Parce que, ça rejoint un peu d'ailleurs ce que relevait Colette, parce qu'il écrit, le signifiant peut être appelé à faire signe et pas devient signe. Ce n'est pas du tout pareil. Après, le signifiant est signe d'un sujet, c'est... Moi, je l'entends plus signe comme la marque, le style, parce que le paragraphe se termine sur la définition classique, si je puis dire, le sujet. Il n'est sujet que par un signifiant pour un autre signifiant.
Il y a les deux niveaux.
Hein ?
Il y a les deux niveaux.
Mais je ne suis pas sûre que ce soit deux niveaux, justement. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre lecture. Parce que faire signe ou devenir signe, ce n'est pas du tout pareil.
Enfin, je veux faire plusieurs remarques. Enfin, d'abord sur le passage, quelle est la différence entre l'individu et le sujet ? Eh bien, de l'individu, on ne pourrait pas dire que son être est toujours ailleurs. Il a son être là où il est. C'est la grosse différence avec un sujet. Et je le rappelle parce qu'il me semble qu'on complique, on complique beaucoup la lecture de ce passage, qui me semble, et on le complique parce qu'on injecte dans le texte, c'est pas d'aujourd'hui, hein, la dernière fois c'était déjà le cas, on injecte dans le texte d'autres formules qui viennent d'autres passages et qui, des fois c'est nécessaire pour éclairer le texte, mais là je trouve que ça le rend plus complexe. Pour moi, je rejoins un peu ce que disait Martine, le signifiant devient le signe, c'est-à-dire il devient le signal qu'un sujet, que l'individu a été transformé en sujet. Hein ? Et donc on n'a même pas besoin d'injecter la question de la jouissance, de l'amour encore moins, pour comprendre ce paragraphe-là, il me semble. Hein. C'est pour ça qu'en effet, il faut souligner, il devient signe, il fait signe du sujet. Si Lacan avait voulu dire, parler du signe, parce qu'il a une théorie du signe dans beaucoup d'autres passages, hein. Il y a radiophonie, il y a télévision, où il prend le signe autrement. Mais s'il avait voulu parler du signe dans les autres acceptions qu'il a développées, il ne reviendrait pas à la fin du paragraphe pour dire « c'est en cela que le sujet est un étant dont l'être est toujours ailleurs ». Parce qu'alors, on dirait l'être du sujet, il est dans le signe. Et là, il nous dit le contraire. Le signifiant fait signe au sens du « il signale ». De même que les hiéroglyphes au désert, si on les prend comme des signifiants, ils deviennent signes qu'il y a un sujet qui a écrit. Ils signalent qu'il y a eu du sujet. Alors, c'est pour ça que là, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la peine de compliquer la lecture de ce paragraphe-là, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Alors, sur la question des éclairs du matin, et de l'exemple, très joli exemple que vous avez pris avec ce personnage très pittoresque, disons. Enfin, ce n'est pas n'importe quel pittoresque, hein, en même temps, il y a du génie là-dedans. Moi, je ne suis pas sûre du tout que ça relève de l'inconscient. Pas du tout. De l'inconscient freudien, celui qu'on connaît. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait du non-conscient, ce qui est le cas là, pour qu'il y ait l'inconscient freudien. Et ce qu'il raconte sur son éclair du matin, c'est un truc quand même très connu dans les sciences. Il y a d'autres exemples. Qui c'était qui, en mettant le pied sur la marche du bus, a trouvé la solution qu'il cherchait depuis ses points carrés, ou je ne sais plus. Enfin, on a beaucoup d'exemples comme ça. Et, hein, oui, enfin, bref, un an, Poincaré, il y avait déjà des bus au temps de Poincaré. Ah, Pascal, non. Donc, moi, je vais vous faire une confidence, j'ai des éclairs le matin. Je n'ai pas eu la médaille de Field, mais quand je me couche avec une question irrésolue, très souvent, je me lève et ça me paraît tout simple. Et ce n'est pas de l'inconscient, ça, c'est du travail du pré. On pourrait mettre ça, si on veut rattacher à nos catégories, disons, moi je le rattacherais au préconscient, au fait qu'il y a du travail qui se fait dans, on ne sait pas où, on ne va pas dire dans le cerveau, on ne sait pas où, mais il y a une sorte de travail, tout n'est pas conscient dans le travail intellectuel en fait. Donc j'ai plutôt tendance à rapprocher ça. Par contre, ce que vous évoquiez à la fin de ces personnes dans un état extrêmement limite, ça c'est très très intéressant, et en même temps très convaincant, effectivement, des stigmates, on dirait, j'aurais envie de parler de stigmates de la langue. Et c'est comme sur les champs de bataille. Les mourants, ils appellent leur mère, ils crient des mots de... c'est très, très... Pour nous, c'est très important, parce que parce que la preuve par l'affect, on a la preuve de la langue par les affects, c'est une preuve, d'accord, mais qui a une présence clinique difficile à établir. Ça, c'est un des indices très forts. Donc, je trouve ça très, très intéressant.
Oui, juste en passant, c'est que finalement, il cherche le secret d'un passage d'un état à l'autre, le Villani. Or, c'est exactement la même chose pour le sujet qui cherche qu'est-ce qu'il y a entre la vie et la mort, et qu'on est sur le point de trouver, et qu'on ne pourra jamais dire au moment où on meurt. Donc, c'est vraiment ce qu'il croit possible de découvrir par les mathématiques, qui est vraiment le passage d'un état à l'autre, puisque vous dites qu'il travaille sur ce plan-là, hein, d'un corps à l'autre.
Alors moi, je voudrais reprendre quelque chose qu'a dit Nicolas sur le savoir imprenable, qu'il distingue du savoir du fantasme qui n'est pas, lui, imprenable. Hein, donc le savoir du fantasme est prenable par l'analyse, et après, il y a ce savoir imprenable. Et je me demandais, d'une part, comment l'analysant y accède à ce savoir imprenable autrement que de façon intellectuelle, puisqu'on peut le savoir, le philosophe aussi le sait qu'il y a quelque chose d'imprenable, mais est-ce que l'analyse, par quelle expérience il y accède? Et je me demandais si ça pouvait se rapprocher de la question finale, finale pas dans le sens de terminale maintenant, mais de la fin de ton exposé sur comment... est-ce qu'on peut accéder à quelque chose de la langue par le langage? Il me semblait qu'il y avait un parallèle entre les deux questions, mais je ne sais pas si c'est suffisamment explicite.
C'est explicite, je ne sais pas.
Oui.
Je sais pas comment y répondre comme ça. Je te dirai, je vais voir.
Ou peut-être simplement, oui, en tout cas pour Patricia, j'aurais aimé juste que, comme c'était assez rapide, que tu reformules ta question finale, moi elle m'éclairerait, parce qu'il me semble que c'est une voie d'accès à ce savoir imprenable. Mais...
Bon, peut-être tout à l'heure. Sur l'illumination du matin, ce qui me semblait relever du processus inconscient, c'était juste l'encodage différent. C'est le fait qu'il bascule simplement, comme dans le rêve, en fait, où le grand et le petit, vous voyez, il y a un truc de... Juste de...
À vrai dire, je ne sais pas très bien comment répondre, mais je dirais aussi que... Bon, c'est que le savoir qui est imprenable reste imprenable. Mais... Et voilà. Mais il affecte le sujet. Alors, est-ce que quand il affecte le sujet, est-ce que le sujet peut en savoir quelque chose? Je ne sais pas, je pense.
Peut-être juste, après cette traversée, peut-être qu'on ne va plus le chercher autrement. C'est ce que je disais, c'est dégagé, ces émergences-là, elles se dégagent de la préinterprétation déjà du fantasme, où je disais de déboucher le tonneau. Enfin, c'est plus pris là-dedans, donc ça laisse une chance à ce que ça se... Simplement, ça se constate sans que tout de suite ça rentre dans le déchiffrage ou dans la pensée ou dans le. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut en savoir grand chose de plus, justement. Mais... Et ça, ça ne me semble pas philosophique comme expérience ou intellectuelle.
Alors, sur ces questions, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça éclairerait les choses de dire le langage est fait avec la langue? C'est ce que Lacan dit, les signifiants sont extraits de la langue. Hein? Donc, le langage, il est fait avec la langue. Dès qu'un signifiant est extrait de la langue, il y a un effet sujet. c'est pas que le signifiant affecte le sujet. Le sujet, il est effet. Il est effet du fait du signifiant. Si le signifiant affecte quelque chose, c'est pas le sujet, c'est le corps, hein, l'individu corporel. Enfin, c'est la thèse et l'hypothèse même. Le côté imprenable de la langue, la question posée, est-ce qu'avec le langage, on pourrait arriver à apprendre la langue? Bien sûr que non. C'est la structure du langage qui rend impossible d'épuiser les S2, le gros ventre plein d'éléments de la langue. Dans le langage, on est dans la structure S1, S2, et elle est récurrente. Autant de S1 qu'on va extraire, il restera toujours des S2. Donc, dès qu'on est dans le langage, il y a de l'imprenable, il y a de l'impossible. Alors, effectivement, la difficulté de la thèse de Lacan, c'est de dire que les éléments, que la langue affecte le vivant. Il ne dit pas le langage seulement, il dit la langue. Alors, est-ce qu'on peut concevoir, conceptualiser un niveau où ce serait directement la langue qui affecterait le vivant? Mais c'est que la langue, elle passe toujours par le langage. Elle est toujours présente dans un langage. Le langage n'existe pas, mais un langage, ça existe en chacun d'entre nous. Et donc, c'est quand même le langage qui affecte. Finalement, pas sans la langue, puisqu'il n'y a pas de langage sans la langue. Moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop... Enfin, j'en reviendrai là-dessus la prochaine fois, mais il ne faut pas trop accentuer la langue comme inconscient réel, parce que la langue n'a pas de présence hors langage. Et elle vient à l'enfant par le bain de langage, d'ailleurs, hein, pas par d'autres moyens. Bon, enfin, j'ai le cube un peu là, mais... Oui.
Par rapport à cette question, il y a la référence tellement classique de la préface... Quand l'être d'un laps n'a plus aucune portée de sens, on est dans l'inconscient, on le sait. Là, peut-être que justement, du point de vue clinique, phénoménologique, on peut attraper quelque chose. C'est ce que vous disiez du vidage des significations fantasmatiques qui me fait penser que c'est un résidu quand même. L'être d'un laps n'a plus de portée de sens. Il n'empêche que le lapsus a été fait. L'effet de la langue s'est produit. Et vidé de son sens, il reste cette ossature. Peut-être c'est une façon d'en attraper un bout de la langue. Oui.
Des bouts. Oui.
Un lapsus, c'est un phénomène de langage. De langage. Pas parce que un lapsus est un phénomène de langage, pas de la langue. Quand le lapsus apparaît, ça veut dire un signifiant apparaît là où on attendait un autre. Donc on a substitution signifiante, on est dans le langage, on n'est pas dans la langue toute seule. Alors effectivement, tu as raison d'évoquer ça, c'est que donc tout de suite, on entre dans l'espace du sens. Et quand on vide le sens, il reste effectivement comme résidu la coquille de l'élément formel. La coquille de l'élément formel ayant perdu son sens. Là, on peut dire qu'en effet, on est dans l'inconscient réel. Mais c'est pas parce que c'est l'élément de la langue que c'est réel. C'est pas, ça n'a plus de sens. Plusieurs expressions, excusez-moi. Oui. L'hypothèse est nécessaire au fonctionnement de la langue. L'hypothèse, dit Lacan, bah, tout à fait en bas de la page, est nécessaire au fonctionnement de la langue. Ce serait bien si on pouvait dire ce qu'est le fonctionnement de la langue. Et puis, son être est toujours ailleurs, comme le montre le prédicat. Ça ne vous a pas surpris, ce prédicat qui arrivait là? Bon, ce n'est pas très important, hein, mais ce serait bien si on pouvait en dire quelque chose quand même. Au fond, la langue, le fonctionnement de la langue, c'est que, ça revient à dire la même chose que j'ai dit avant, mais la langue n'a de présence que parce qu'on en use. Hein ? Lacan le déplie d'ailleurs de façon très explicite quelque part. Il dit il n'y a de langage que parce qu'il y a des êtres qui usent de la langue. Et donc, le fonctionnement de la langue, c'est son passage au langage. C'est son passage au langage, et le passage au langage, ça consiste à ce qu'un signifiant, affecte l'individu vivant, qui devient sujet, et qui du coup renvoie sur d'autres signifiants. Donc le fonctionnement de la langue, c'est le passage au langage, je crois. Je ne vois pas d'autre définition. Si vous avez une autre idée, peut-être...
Je peux vous transmettre ma marotte du moment. Quand vous parliez de maman, du dernier mot d'amour, du dernier mot de vie. Voilà, mais du dernier mot de vie avec l'amour premier, ma marotte qui est garée maintenant depuis presque un an et demi, plus de 10 ans après La promesse de l'aube, il écrit un roman qui s'appelle Les Enchanteurs et qui est dans les années 73-74, juste avant qu'il commence sa production non-stop, où le matin il écrit sous le nom de Gary et l'après-midi sous le nom de Hajar. Et au tout début, et donc cet héritier d'une série de saltimbanques va devenir non pas un magicien, mais un écrivain. Et il a une très jolie formule qu'il dit, arrivé à un certain âge, il écrit ça juste après, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, au-delà d'un certain âge, l'amour, c'est pour les souvenirs. La volupté, je laisse ça aux professionnels. Pour le reste, j'écris. Et on voit bien cette sorte de systématisation, mais qui vient répondre, l'amour, je laisse ça pour les souvenirs, ça vient tout à fait répondre avec l'amour maternel, la vie vous fait une promesse qu'elle ne tiendra jamais. On a vraiment ces deux pans avec la différenciation entre l'amour, la volupté et la fonction de l'écriture. Je trouve ça assez... ça vient en écho de ce que vous disiez.
Les mères ont bercé l'enfant aux raisins verts de leurs fausses espérances et ils en eurent les dents irritées. Et ces dents irritées, on les retrouve durant toute la vie.
C'est dans la Bible.
Oui, mais il le cite.
Fausse espérance est vrai désespoir.
Fausse espérance est vrai désespoir, oui, oui.
Dans la Bible, ce sont les pères. Les pères ont mangé du raisin vert et les enfants en auront les dents agacées. Ça, c'est dans une partie de la Bible. Et après, je ne me souviens plus très bien
C'est-à-dire quand même plusieurs siècles après, ça a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette, ce fantôme qui tombe sur les enfants. C'est-à-dire, il y a un moment où il est écrit « Les pères ont mangé du raisin vert et les enfants n'en auront plus les dents agacées ». Donc il y a de l'espoir.
Oui, mais attends, ça c'est très intéressant de le rapprocher du texte de Lacan. Parce que les pères ont été des enfants de mère. Et donc, ce sont les mères qui les ont bercés de leurs fausses espérances et vrais désespoirs. Et ils en eurent les dents irritées. Quand ils deviennent pères, ils ont toujours les dents irritées.
Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là.
Il faut que je retrouve parce qu'il y a vraiment deux temps dans la vie. Pas les mêmes.